France Culture.
Talmudique. Un thème parmi d'autres de la littérature peut retenir l'attention à la fois par sa permanence et la diversité de ses traitements. Le thème du double. Il est présent chez des précurseurs comme Cazotte ou Potocki, significativement illustré par Nerval ou Maupassant. Il se trouve encore au centre de la littérature populaire d'un Gaston Leroux comme de l'œuvre d'Apollinaire. On retrouve aussi ce thème dans la littérature étrangère, comme chez Dostoïevski, Chamisso ou encore Nabokov, pour s'en tenir à une liste courte. Mais ce n'est pas à ces auteurs, ni à leurs livres, qui est consacrée l'émission d'aujourd'hui, mais aux doubles mots, doubles noms, doubles idées, doubles rimes, que l'on trouve dans le texte de la Torah, tout un festival de doubles qui constitue une esthétique du dédoublement, l'essence même du poème et de la poétique biblique, comme nous le fait découvrir Pascal Baquet dans un ouvrage passionnant intitulé « Double » au pluriel, 13 poèmes de la Torah, avec une profonde, subtile et enthousiaste préface de Pierre Michon. C'est aux éditions Elliott et c'est absolument remarquable. Pascal Baquet, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wacknin.
Pascal Baquet, vous êtes poète et écrivain et à côté de l'enseignement, votre passion est l'étude, et en particulier l'étude de la Bible et du Talmud. Bien que le titre de votre livre parle de 13 poèmes, ce sont 14 textes de la Torah que vous présentez et appelez poèmes. Comment les avez-vous choisis? En quoi font-ils poèmes plus que les autres textes de la Torah? Pascal Baquet.
Je dirais 13 et 14, c'est un petit jeu que je me suis autorisé pour justement signifier que c'est pas un décompte exact et que donc j'ai choisi des textes qui se révélaient très clairement poétiques, mais qu'il y avait d'autres versets qui pouvaient rentrer dans ce décompte. Les textes que j'ai isolés sont des textes qui ont d'abord des propriétés formelles, je crois que nous en parlerons après, mais aussi qui sont liés à des moments clés du récit biblique, que ce soit les bénédictions des patriarches, que ce soit les chants, le fameux chant de la mer des joncs que chante Israël après la traversée de la mer des joncs, ou encore la fameuse Shira, le cantique final de Moïse le jour de sa mort, qu'on appelle Ahazinu, écoutez ou oyez. Donc ce sont des textes qui renvoient à des moments de très grande intensité dans la narration biblique où justement le caractère narratif est dépassé par un peu plus que de la narration. Et ça déjà, c'est une propriété évidente de ces textes. Maintenant, il y a une autre dimension qui sont plus objectives et qui sont liées à la forme spécifique de ces versets.
Ce soir a lieu la nuit d'étude de Hoshana Araba, oui. Et mardi soir prochain commence la fête de Simchat Torah, la fête de la joie de la Torah. Jour de chant, de danse et jour où l'on recommence la lecture du rouleau de la Torah qui inaugure le célèbre verset traduit généralement « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » dont le premier mot en hébreu, « Bereshit », est un mot qui peut se lire « Shir Ta'av » si on le coupe en deux, c'est-à-dire « désir du chant » ou « désir du poème ». Désir qui est aussi une quête et une exploration du poème, de son sens et de son essence, dont le double est le signe. Double, répétition et dédoublement, ce qui a donné le titre à votre ouvrage, double au pluriel. Cette doublure, si on peut dire, mérite un commentaire. En quoi le poème biblique, Pascal Baquet, relève du double?
Alors je commencerai par une petite citation du Talmud qui dit justement, en hébreu ça dit « Shtei mikra ba'im keichad en melamdim » deux versets qui viennent comme un, on n'en apprend pas. Et c'est très important parce que ce que connaît le juif qui pratique dans l'étude juive, c'est précisément l'idée que chaque verset doit nécessairement enseigner quelque chose de spécifiquement neuf, de radicalement singulier. Et précisément, on peut se demander si cette règle talmudique qui se rend compte quand justement on a l'impression que les versets se répètent et que du coup, il y a comme une espèce de crainte révérentielle devant justement la répétition, quand on se place du point de vue de ce qu'on appelle le limoud, de l'apprentissage. Et précisément, les versets poétiques sont deux versets qui viennent comme un. Mais pas comme un dans lequel, d'une certaine manière, la répétition est simplement une espèce d'effet de psittacisme. Mais le double, c'est le fait que, alors que par exemple dans la poétique française, ce qui fait la nature du vers, c'est une des quantités syllabiques, ce qui fait la nature du poème de la Torah, mais qu'on trouvera aussi chez les prophètes, qu'on trouvera aussi dans les psaumes, c'est une rime, mais c'est une rime qui n'est pas dans les sons, c'est une rime qui est dans les idées. On parle de rime d'idées, on parle de parallélisme. Et cette rime d'idées, c'est le fait que une première formulation, premier verset si l'on peut dire, se redouble d'une deuxième formulation qui, du point de vue sémantique, serait plus ou moins synonyme. Simplement, justement, entre les deux énonciations, il y a une espèce d'effet d'écho qui se construit et qui est le cœur de la rythmique du poème biblique, du poème de la Torah.
Et c'est pour cela que, très souvent, chaque verset est divisé en deux hémistiches.
Voilà, alors, en fait, tout le temps, il y a un petit signe dans la cantillation des versets, effectivement, qui indique la division en deux systématique des versets. La division en deux, elle est liée à l'énonciation orale du verset. Ici, dans le verset poétique proprement dit, les deux énoncés surprennent par leur caractère de parallélisme. Mais justement, ce parallélisme, il est, si l'on peut dire, un dépassement du seul sémantème, pour parler d'un mot savant, de la seule dimension sémantique, parce que quelque chose de plus dans la répétition se donne, quelque chose qui a l'ivresse des mots pour objet, et qui dépasse donc la pure information du verset.
C'est intéressant parce que le double, si je vous comprends bien, n'est pas pure répétition d'un dire, mais la création d'un espace entre deux dires. Peut-être est-ce là le sens de la bina, un mot en hébreu qui signifie l'intelligence, qui, selon la racine latine, interlegere, c'est un entre-deux-dire où le sens est insituable. On pourrait parler d'un tremblement du sens, comme Mallarmé parlait d'un tremblement du nombre, une formule que j'emprunte à Jean-Nicolas Illouz dans son étude sur Mallarmé, Pascal Baquet.
On peut aussi penser à Platon qui énonce que la pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même. C'est dialectique, pas au sens de Hegel, pas au sens du concept, mais la dialectique du dialogue fondamental à l'œuvre dans la pensée. Effectivement, tremblement du sens, vous le dites très bien, parce que je pense que ces versets poétiques sont justement liés à un moment d'ébranlement dans le régime du dire, dans le régime de la parole, où il faut que la parole subisse une forme de surélévation, de mise en excès. Et ce tremblement entre ces deux murs que sont les deux morceaux du verset, il est justement l'amorce d'un dépassement. Et c'est, je pense, ce qui fait le cœur de ce moment poétique qui, par petites touches, intervient dans le texte de la Torah.
Un dépassement dans cet entre-deux-dire, vous l'appelez le sur-dire.
Oui.
Il y a quelque chose d'un dire au-dessus, d'un au-delà du dire.
Exactement.
Mais ce dépassement va vers quoi? Va vers où? Va vers qui?
D'abord, avant d'aller vers, à mon avis, il naît dans. C'est-à-dire que c'est le locuteur. D'abord, on va dire c'est le poète. On n'est pas poète si on ne vit pas ce moment d'effraction, ce moment de surprise. Il est d'abord un bouleversement intérieur. C'est ce bouleversement qui anime aussi le psalmiste. C'est toujours de cela que ça part. C'est toujours de cette sortie du régime naturel du langage. Et après ça, est-ce qu'il va vers un destinataire? Est-ce qu'il... Je suis pas sûr que ce soit la première nécessité de se dire poétique. C'est d'abord une nécessité qui s'exprime en direction de soi-même, en direction de ce qui, à l'horizon, écouterait, et dont je tairai le nom, et ensuite qui se recueille, pour reprendre le mot de Mallarmé, dans la tribu, comme le trésor que doit constituer le poème. Et qui est d'abord un trésor énigmatique, parce que précisément, quand on en vient à ce moment de surdire, la parole se fait, évidemment, plus dense, plus mystérieuse, la langue hébraïque se modifie un peu, il y a des pronoms qui sont toutes des formes poétiques, etc. Donc il y a une obscure transformation de la langue pour que d'une certaine manière la conscience de ce trésor se communique dans un second temps.
C'est presque aussi une offrande au langage lui-même, c'est-à-dire que le poète arrive à trouver dans le langage existant, dans cette parole parlée, une parole parlante, comme dirait Merleau-Ponty, ouais, qui va au-delà des paroles déjà dites pour surprendre dans une parole complètement inédite.
Absolument. Et avec ce petit détail que je rajouterais, qui est que ce réquisite que vous formulez d'une parole radicalement singulière, il touche en vérité tous les versets de la Torah, puisque là est l'enjeu. Quand on en vient au mode poétique, l'intelligence, le moment d'intelligence que le verset doit produire, n'est pas l'unique véhicule. Il y a quelque chose d'autre, de plus que l'intelligence qui est à l'œuvre là-dedans.
Quand vous utilisez le terme de double, c'est aussi le sens des mots et des versets hébraïques qui sont toujours doubles. Selon le célèbre verset du psaume 62, « Achat diber Elohim, shtaim zu shamati, ki oz le Elohim, Dieu Elohim a parlé une fois, mais ce sont deux paroles que j'ai entendues, dit le psalmiste. Amphibologie, donc double sens fondamental, qui est au cœur de la langue hébraïque et source d'une herméneutique dynamique, Pascal oui. Baquet. Ce double sens des mots oui. est absolument essentiel d'un
absolument
point de vue poétique.
Absolument essentiel, parce que là où cette parole, là je parle pour le coup de toute la Torah, pour commencer, est authentiquement, au sens premier, enseignement, ça veut dire qu'elle doit susciter, chez celui qui la reçoit, un véritable événement de pensée. Et si on était dans une formule doctrinale ou normative, ou strictement normative, sans que, justement, l'amphibologie, l'ambiguïté ne s'en mêle, alors on serait devant la raideur du Code civil. Et on serait devant la raideur d'un texte exotérique, qui est un idéal, par exemple, de la philosophie, d'une certaine philosophie, même s'il y a des philosophes, évidemment, qui ont joué aussi sur l'ambiguïté. Mais pour ce qui concerne le texte de la Torah, évidemment, l'ambiguïté est requise parce qu'il s'agit de faire passer un texte à l'existence. Et le réceptacle de cette existence, c'est le sujet lui-même. C'est le sujet de l'étude. Donc ça, c'est en ce qui concerne, me semble-t-il, tout le texte de la Torah. Là où l'amphibologie atteint des proportions considérables dans le poème, c'est que à cela se mêle des énigmes qui parlent aussi à la sensibilité, qui parlent à la sensibilité rythmique à l'intérieur de la pensée. Et les passages que j'ai traduits en seront suffisamment les témoins, parce qu'effectivement, c'est toujours lié à des moments de si grande tension dans le texte biblique qu'effectivement, une fois de plus, il s'agit d'intelligence, mais il s'agit encore d'autre chose.
On parle de double sens, et le mot Torah est un bon exemple de ce double sens des mots. Torah, c'est un mot complexe à traduire, souvent intraduit, et souvent, quand il est traduit par le mot loi, comme dans l'expression la loi de Moïse, ou voici la loi de tel sacrifice, Zot Torah Tachatat, par exemple, vous proposez du mot Torah une autre traduction très intéressante et essentielle, Pascal Baquet.
Oui, merci beaucoup. Le sens, déjà, à mon avis, surplombant de la loi, de la Duralex ou du Gesetz allemand qu'on entend dans la Passion selon saint Jean, « Wir haben ein Gesetz », nous avons une loi. Non, loi, certainement pas. La traduction, à mon avis déjà, en surplomb, c'est très courant en hébreu, les horot, c'est la même racine, c'est enseigner, donc c'est l'idée d'un enseignement. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin, parce que dans ce livre, j'ai fait un travail sur les racines, et je trouve que c'est toujours très important d'accéder, en hébreu, c'est absolument crucial, au caractère matériel de la racine. Et « yara », ça signifie « jeter en avant ». Et donc, divine surprise, puisque nous avons un mot en français qui vient du latin, où justement cette idée d'un jet en avant se retrouve en latin dans le mot « projectum », la chose qui est jetée en avant. Et c'est de là, évidemment, que le mot « projet » a été tiré. Et si vous voulez, je trouve que la traduction de Torah par « projet », alors évidemment, elle a quelque chose de tout de suite pour les oreilles habituées. Il y a une résonance sartrienne, évidemment. Mais je trouve que c'est pas une résonance indigne. Et puis, si vous voulez, quand on déroule le fil des événements de la Torah, quand on voit les relations entre Moïse et Israël, quand on voit les relations immensément conflictuelles qui émaillent le récit entre Moïse et Israël, l'enjeu est celui, justement, de la préservation d'un projet. Quelque chose qui, dans la sortie d'Égypte, initie l'immense ébranlement d'un projet vertigineux. Et tout l'enjeu du Pentateuque, ce sera, mais est-ce qu'on est à la hauteur du projet? Et ça, dans les oreilles d'Israël, du collectif, d'une part, et dans les oreilles de Moïse, d'autre part, avec toutes les tensions que ça va impliquer. Donc je pense que le mot projet est véritablement pertinent pour traduire le mot Torah.
Oui, il est intéressant même d'un point de vue de la halakha, de la loi, parce que si je dis « voici la loi de tel sacrifice », on pourrait croire qu'on donne la loi de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, alors que si je traduis par projet, c'est-à-dire on pose la question, mais quel est le projet de ce geste, de ce sacrifice, par exemple, ça veut dire quel est le sens que cela donne. Alors on parle de deux, de double, c'est aussi le double par l'auditeur qui, par sa lecture et son interprétation, redonne à la parole, d'origine divine, selon le texte de la Torah, son statut d'infini, Pascal Baquet. On a l'impression que, par le fait d'interpréter, la parole qui était infinie à l'origine, qui s'est fait finie dans le texte, par l'interprétation, retrouve cet excès dont vous avez parlé, cette excession, oui. C'est-à-dire ce chemin, ce vers qui serait la dimension de l'ouverture et de l'infini.
C'est certain. C'est le cœur de ce qu'on pourrait appeler l'inouï du verset qui clôt le récit de la création, où l'on dit que Dieu se repose du travail qu'il a fait. Donc on a la description extrêmement étonnante pour des oreilles grecques, par exemple, d'un monde qui serait parfait, au sens du perfectum, de l'achevé, du shalem en hébreu. Mais le verset, malgré tout, se continue en disant « Dieu se reposa du travail, asher bara Elohim la'asot, du travail que Dieu avait créé pour faire. » Et le « pour faire », c'est classiquement interprété comme la part de l'homme. Mais cette part de l'homme n'est pas une contradiction avec... Il n'est pas question de dire que cette part de l'homme, c'est justement l'ouverture sur l'histoire universelle. Je ne crois pas que ce soit... cela, je crois que ce qui est à l'œuvre dans ce faire de l'homme, c'est effectivement cette appropriation par l'homme du geste initialement infini et déterminé en monde, mais en monde dans la mesure où ce monde est l'occasion, effectivement, de son dépassement et de son retournement vers l'infini. Mais cette fois-ci, effectivement, non plus du point de vue de Dieu, mais du point de vue de l'homme.
Comme dit André Néer, on pourrait dire que la perfection du monde, c'est sa perfectibilité par l'action de l'homme.
Exactement. Et cette action, elle est, vous savez, quand on décrit que l'homme a été mis dans le jardin, le Ovda ou le Shomra, pour le travailler et le garder, la plupart des grands commentateurs médiévaux disent que cette garde du jardin, c'est une garde intellectuelle. C'est le produit, effectivement, tourné vers l'infini, d'une pensée qui se doit d'être à chaque instant neuve.
Pièce pour solo de flûte traversière en un mouvement composé par Claude Debussy en novembre 1913. Pourquoi ce choix, Pascal Baquet? Je me suis demandé si ce n'était pas le lien privilégié que la musique de Debussy entretenait avec la poésie de Mallarmé, dont l'ombre tutélaire semble présente dans votre travail de traduction. Et je pense particulièrement au blanc qui, comme dit Mallarmé, en assume d'un poème l'importance, ce blanc qui serait l'entre-deux-dire, l'entre-deux hémistiches, l'entre-deux de ces doubles dont nous avons parlé.
Oui, exactement comme le silence dans la musique d'ailleurs. Alors, pourquoi j'ai choisi ce morceau extraordinaire de Debussy? Parce que dans la nudité de cet instrument unique, donc de cet instrument qui n'est pas double, justement, il n'empêche que l'arabesque, c'est caractéristique de la musique de Debussy, vous l'avez vu se déployer depuis le début du morceau, dans une première phrase ondoyante, qui extraordinairement se dédouble. Et c'est... Et puis ce mouvement d'ondoiement qui redit une deuxième fois. Et pour montrer, pour le coup, en quoi ici le poème et la musique reposent absolument sur cette répétition... Et quelque chose du mystère de la première phrase serait complètement vacant si ça n'avait pas été répété. Si cette espèce de ligne serpentine de la première phrase n'avait pas tout d'un coup rencontré son dédoublement et qu'une chambre d'écho pour l'imagination soit ouverte par la musique, ici. Voilà, pour Debussy. Quant à Mallarmé, oui, Mallarmé était un homme si extraordinairement soucieux du poème et de l'enjeu du poème pour ce qu'il voyait rester de l'humain. Oui, Mallarmé était scrupuleux quant à la capacité du poème de produire du silence aussi.
On parle de double, on a parlé du double mot, on parle du double de l'auditeur qui devient interprète. Ce deux, ces différentes répétitions que vous avez évoquées, conduisent au rythme, à l'ébranlement, un mot qui vous est cher, qui fait sortir de l'inertie. En quel sens arrive-t-on à ce rythme, justement, qui est le rythme poétique, le rythme de ce poème ?
Le rythme est le cœur du poème comme il est le cœur de la musique. Il est effectivement la manifestation la plus saillante de ce que la langue, c'est-à-dire l'être parlant, donc le sujet, mais on, voilà, les linguistes diraient l'être parlant, n'est pas le captif d'une tribu, pour parler comme Mallarmé, n'est pas le captif d'une espèce de bain collectif inerte dont la langue serait le reflet, mais qu'au contraire, cette déposition de la langue, loin d'être asservissante, est libératrice dans la mesure où survient en elle le rythme. Et le rythme, il est rythme des mots, il est rythme de leur musique, donc de leur son, et il doit animer jusqu'au corps de celui qui le vit.
Ça induit la danse d'une certaine manière. Oui. Et justement, je pensais à cette fête de Simchat Torah. C'est la fête de la joie de la Torah, donc la danse et la joie. Ce corps dansant, ce corps chantant, c'est un corps qui est animé par une joie de l'étude, une joie de la lecture, une joie de la transmission. Est-ce que c'est facile de parler de joie de l'étude dans les temps difficiles que nous traversons? Ou peut-être c'est parce que ces temps sont difficiles que la joie que nous avons dans l'étude permet de les traverser?
Grave question. Déjà sur cette joie, je me permettrai de citer le verset, j'y ai songé pendant les deux premiers jours de fête. Le verset dit « Ve'aita ar sameach ». Donc, c'est un verset étrange parce que c'est un verset qui, alors, Ve'aita ar sameach, ça veut dire, tu seras pourtant heureux. Ou joyeux. Et la bizarrerie de ce verset, voilà justement un exemple de ces dissonances qui alimentent la pensée. Le verset dit, vous vous réjouirez pendant ces jours de fête. Vous vous réjouirez, donc on a l'obligation de se réjouir, tout va très bien. Wenn der Rebbe tanzt, dann tanzen der Chassidim. Quand le Rebbe danse, tous les Chassidim dansent. Donc, il y a une espèce de mécanique inexorable, on doit se réjouir. Ben non, parce que, aussitôt après nous avoir dit « vous vous réjouirez pendant ces jours de fête », vous serez pourtant heureux. Ce « pourtant » est évidemment à la fois glaçant et fascinant. Et ça veut dire qu'il est une promesse en perspective. Et je pense qu'un juif vit, un juif de l'étude en tout cas, vit son étude en perspective. Il vit son étude comme une, d'abord comme un labeur, comme une épreuve dans laquelle il sera d'autant plus grand qu'il se sera demandé d'immenses efforts. Et que plus ce sera aisé, moins ce sera nourricier. Plus ce sera difficile, plus ce sera nourricier. Donc l'épreuve de la difficulté, elle est le cœur même de l'étude juive. Mais que, en revanche, il y a une espèce de confiance qu'il faut conserver dans le fait que, comme une projection, mais cette fois comme une projection sur un plan en mathématiques, quelque chose de ce labeur s'inscrit et se vit comme joie. Quant au temps difficile, l'âpre tâche d'un juif et d'un juif de l'étude, c'est en dépit de ce rabattement perpétuel que nous subissons plus fortement aujourd'hui qu'à aucune autre époque de l'histoire sur des grandes données collectives, sur des appartenances identitaires et sur les violences de l'actualité, c'est de rester opiniâtrement singulier et vissé à sa singularité. Et étrangement, être vissé à sa singularité, c'est rendre le plus grand service à tous. Et à cet égard, c'est comme ça, à mon avis aussi, que se traverse, pour celui qui pratique cet art de l'étude, c'est ainsi qu'il appartient à la cité, tout autrement que par l'action militante. Voilà.
Alors, j'aimerais vous demander, on a parlé de double, on a parlé, je dirais, très théoriquement. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un verset que vous avez traduit? On parlera dans la prochaine émission de votre pratique de la traduction, mais un verset que vous avez traduit et qui montre comment justement se produit ce double, ce dédoublement, cette chambre d'écho que vous venez d'évoquer.
Par exemple, dans le cantique final de Moïse, le premier verset, Ha'azino ha-shamayim va'adabera, v'tishma ha'aretz imrepi. Voilà, premier verset, donc oyez cieux et je parlerai, et la terre entendra les paroles de ma bouche.
Ça, c'est la traduction, on va dire, mot à mot de ce verset.
Quand j'en viens à la traduction, cieux, faites-vous oreille, et je parlerai, et la terre, elle, écoutera les dires de ma bouche. Et ensuite, voilà, et ma parole se répandra en trompe, et ma parole, douce rosée, irriguera, tantôt d'une tempête secouant la verdure, tantôt en gouttelettes qui perlent sur les herbes. Toujours ce déploiement d'une espèce de choix donné, une espèce de double choix donné, entre l'un des deux bords, vers qui oscillez-vous le plus, à la faveur justement de la subjectivité et de l'imagination qui s'éveille dans l'écho poétique.
Quel est votre désir, vous personnellement, pour le poème Pascal Baquet ? Pourquoi vous vous êtes fait poète alors que vous écrivez aussi de la littérature ? Et je sais, parce que je vous ai beaucoup lu et beaucoup entendu, que souvent vous faites une distinction entre littérature et poésie, mais il est important d'expliquer pourquoi vous préférez le poème à la littérature, parce que vous donnez un sens très précis à la littérature, et pour qu'il n'y ait pas de contresens à ce que vous dites, c'est intéressant que vous expliquiez qu'est-ce que vous entendez par la littérature.
Par littérature, j'entends un mot qui s'est apparu tardivement et qui s'est posé assez rapidement, enfin plusieurs stades, au XVIIe siècle première fois, ensuite au XIXe très probablement aussi, a été une grande scansion, une grande étape, mais d'une forme d'institution au destin de laquelle on appartient. Jusqu'aux grandes prescriptions de la fin du XIXe et du début du XXe siècle de la modernité, avec les effets sur la langue qui, d'une certaine manière, sont des effets collectif, fatal à certains égards, parfois dans la grandeur, parfois dans une espèce d'assèchement. Donc tout ça, c'est à mon avis l'histoire d'une institution. Et pour moi, le poème, et pas la poésie d'ailleurs. La poésie, c'est aussi une institution. Et d'ailleurs, un poète, d'une certaine manière, quand il écrit un poème, il fait de la poésie, on pourrait dire, parce que, par exemple, un poète qui se mettrait dans des règles et qui écrirait des sonnets, il a effectivement affaire à une institution, celle du sonnet, mais contre l'institution. S'il est poète, et s'il a fait véritablement un poème, c'est contre cette puissance de circonvenir que l'institution implique. Et à cet égard, il pense à neuf, comme un talmudiste doit penser à neuf sur un verset. Un poète doit écrire un sonnet de telle sorte que jamais aucun autre sonnet n'ait été écrit avant celui-là.
Mais dans la littérature, quelqu'un qui écrit un roman, et je pense par exemple à Kundera qui parle de l'art du roman et qui met au centre la question de l'ambiguïté, on retrouve à la fois l'ambiguïté créatrice dont vous avez parlé, et on peut aussi, chez de très très nombreux romanciers, trouver ce contretemps, ce contre-pied, cette effraction du langage, cette innovation dans la langue que vous évoquez dans le poème. Donc on pourrait dire que le poème appartient aussi à la littérature et pas nécessairement les opposer. Si je comprends bien ce que vous dites, que ça soit de la poésie ou que ça soit du roman, ou à partir du moment où cela devient institution, vous appelez cela littérature, et lorsque ça dépasse l'institution, vous appelez ça le poème, même si c'est un roman.
Ce serait ma tendance, oui, parce que justement, ce que la rime d'idées bibliques m'a suggéré depuis les années où je les ai découvertes, c'est qu'effectivement, il y a une cellule fondamentale qui est regardée, mais qui n'est pas regardée aussi attentivement que la page. On parle toujours d'une page de Proust ou d'une page de Balzac. Mais il me semble qu'il y a une cellule qui est plus importante et à mon avis plus féconde encore que la page, c'est la phrase. Et que d'une certaine manière, chaque phrase doit être l'unique et la première. Oui, à cet égard, ça peut être tout à fait dans un roman comme dans un poème.
Ce que vous venez de dire, Pascal Baquet, me fait penser à ce que disait le poète Jean-Pierre Siméon, qui écrit « Usons du poème non seulement pour ce qu'il dit, mais d'abord pour ce qu'il est, un arrêt dans la fureur, un silence dans le vacarme, une béance dans le flux ininterrompu, une profondeur dans la surface, une latence dans l'immédiat, une lenteur dans la frénésie. Le mode d'action est simple, ajoute-t-il, ne lui faut que le courage du contre-pied et du contre-temps. dans le grand Barnum contemporain, oui, tout poème lu, dit, écrit, entendu, est un contre-pied et un contre-temps, un acte de résistance. Donc, j'ai l'impression, Pascal Baquet, que cette réflexion, cette méditation de Jean-Pierre Siméon est très proche de vos préoccupations.
Oui, la seule nuance que je me permettrais d'ajouter à cette phrase magnifique, c'est peut-être seulement sur ce tout poème. Tout poème à condition d'être irrigué par cette vie neuve, cette vita nova que je voudrais décrire. Je pense que c'est ça qu'il dit le cœur de l'événement poétique. Le problème, c'est que faut-il encore que des poètes l'assument et à nouveau qu'ils ne sombrent pas dans la poésie, mais qu'ils demeurent à l'intérieur du poème. C'est d'ailleurs amusant de voir que Hölderlin ne dit pas « c'est la poésie qui fonde ce qui demeure », il dit « ce sont les poètes qui fondent ce qui demeure ». Donc à ça, il faut effectivement une présence d'un être parlant vivant. Et nous avons vécu, nous avons traversé des époques, je pense au XVIIIe siècle par exemple, dans lesquelles, alors qu'il y avait beaucoup d'intelligence, beaucoup de paroles, cette vocation du poème n'était plus véritablement habitée. Quand Platon dit qu'on peut imaginer des siècles entiers sans philosophe, peut-on imaginer des siècles entiers sans poète ?
Merci Pascal Baquet pour cette très belle conversation.
Merci à vous.
J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre cette méditation sur le poème et sur la poésie biblique, mais on va dire le poème biblique. Je rappelle le titre de votre livre, Double, 13 poèmes de la Torah, avec une très belle préface de Pierre Michon. C'est aux éditions Elliott. Merci encore Pascal Baquet.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Noé Chaban, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.